أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ السلام
L'opposition contre le Messie promis alayhi salam a débuté avant même que la Jamaat Ahmadiyya n'ait été fondée et avant qu'il n'accepte les serments d'allégeance de ses disciples. Les musulmans et les non-musulmans ont remué ciel et terre dans leur opposition contre le Messie premier des Islam et ne cessent de le faire jusqu'à présent. En tête de file se trouvent aujourd'hui les musulmans. Cependant, Allah ne cesse de faire croître la Jamaat du Messie premier des Islam. Et jusqu'à présent, par la grâce d'Allah, la Jamaat est établie dans 209 pays dans le monde. Tout comme je l'ai dit, dans les pays musulmans en particulier, là où les gens portent une attention particulière à propos de la Jamaat, eh bien, là-bas, on y mène contre elle des campagnes régulières. Nous constatons que certains hommes politiques, certains ulémas et les fonctionnaires de l'État qui sont sous leur influence, voire même des juges, tout comme je l'ai dit auparavant, même des juges prennent part à cette hostilité. Tout comme je l'ai évoqué dans plusieurs de mes sermons auparavant, ces jours-ci, les Ahmadis de l'Algérie sont victimes de persécutions. Les juges ainsi que les fonctionnaires de l'État disent à ces Ahmadis persécutés: si vous annoncez que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, alayhislam, n'est pas le Messie promis, si vous annoncez qu'il n'est pas le Messie promis, qu'il est un agent des forces anti-islamiques, qu'Allah nous en préserve, si vous annoncez qu'il est soutenu par ces forces anti-islamiques ainsi que par les puissances occidentales, et si vous annoncez qu'il a été planté par ces forces occidentales et par les Britanniques en particulier, si vous faites ces annonces, eh bien en ce cas, nous allons vous libérer sur le champ. Sinon, soyez prêts à recevoir des peines de prison et des amendes. Ceux qui refusent leur demande et ceux qui sont fermes dans leur foi sont ensuite jetés en prison. Et ils doivent aussi payer de lourdes amendes. Des amendes que peut-être la majorité d'entre eux ne pourront pas payer parce qu'ils n'ont pas les moyens, la majorité d'entre eux. En tout cas, nous devrons prier pour ces innocents qui sont persécutés. qu'Allah leur accorde la persévérance et qu'Allah les protège de ces persécutions. De même, vous ne devez pas aussi oublier dans vos prières les Ahmadis du Pakistan. Au Pakistan et dans le Punjab en particulier, on est en train de persécuter les Ahmadis en menant contre eux des campagnes bien ficelées. Les troubles qui secouent les pays musulmans, ainsi que la situation des relations entre ces différents États musulmans, tout cela doit suffire pour faire réfléchir à une personne douée de bon sens. Cela doit suffire pour faire réfléchir une personne de bon sens et cela doit pousser cette personne à chercher celui qu'Allah avait promis d'envoyer pour la réforme de la Oumma en Islam, celui qui allait être le dévoué serviteur du Saint-Prophète Mohammed, celui dévoué serviteur qui avait été prédit par le Saint-Prophète Mohammed, lui. On doit chercher cette personne étant donné que les signes liés avec l'avènement de ce Messie ne cessent de s'accomplir. C'est là la seule voie qui rétablira de nouveau la grandeur des musulmans. Le Messie promis à l'Islam déclare dans un endroit: sachez que la promesse de Dieu est vraie. Et en accord à sa promesse, Dieu a envoyé un avertisseur au monde. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Dieu cependant le reconnaîtra et établira sa véridicité par de terribles assauts. Je vous dis en toute vérité, dit le Messie premier l'Islam, je vous dis en toute vérité qu'Allah m'a envoyé en tant que Messie promis en accord à ses promesses, à vous de m'accepter ou à vous de me rejeter. Sachez cependant que votre rejet sera sans effet. Le décret de Dieu va se réaliser. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare: Dieu m'a envoyé en me conférant les titres de prophète et de messie promis. Mes détracteurs s'opposent à Dieu et non pas à moi. Ainsi donc, l'opposition contre la Jamaat du Messie promis l'Islam n'est qu'un effort pour contrer le dessein de Dieu. En fait, ces personnes sont en train de s'opposer à Dieu. Et cette hostilité n'a jamais eu d'effet néfaste dans le passé, et cette hostilité n'aura pas d'effet non plus à l'avenir. Allah, l'exalté, a toujours accordé son soutien au Messie promis l'Islam, et nous avons toujours constaté que l'ennemi a échoué. Et il ne cesse de subir l'échec. Et à l'avenir aussi, il va échouer. Il s'oppose à nous dans un endroit et Allah ouvre des portes pour l'établir dans des centaines d'autres endroits. En Algérie, dans leur orgueil, ils ont tenté de détruire les Ahmadis. Les journaux et les autres médias en ont fait les gros titres. Des articles contre la Jamaat ont été publiés dans les journaux. Voir les journaux sont allés à l'extrême dans leur hostilité contre la Jamaat Ahmadiyya. Ils sont allés très loin dans leur opposition contre la Jamaat. Or, ces mêmes actions de leur part ont permis de diffuser le message de la Jamaat. La Jamaat Ahmadiyya en Algérie n'est pas très ancienne, mais suite à cette hostilité, Allah, l'exalté, est en train de renforcer la foi des Ahmadis de l'Algérie tout en ouvrant d'autre part la voie pour la diffusion du message de l'Ahmadiyya. Les Ahmadis algériens écrivent: « Nous étions inquiets quant à la transmission du message de la Jamaat dans le pays. C'en est là un reflet de leur enthousiasme et de leur ardeur. Allah l'exalté lui-même a tout organisé par l'entremise de sa docilité. Il relate que certains sont négativement influencés par ces campagnes, et cela concerne en majorité les suivants des prétendus oulémas. Cependant, beaucoup de personnes ont entendu pour la première fois à propos de la Jamaat Ahmadiyya, ils ont entendu pour la première fois les déclarations du Messie premier d'Islam. Et ils sont en train de condamner l'hostilité dont est l'objet de la Jamaat Ahmadiyya. Ils sont d'ailleurs en train de se renseigner à propos de la Jamaat Ahmadiyya. D'ailleurs, le Messie premier d'Islam a aussi expliqué que tout ce qui est écrit contre nous pousse les autres à étudier de plus près nos ouvrages. L'opposition contre nous et tout ce qui est écrit contre nous pousse les autres à étudier nos ouvrages. Le Messie premier d'Islam explique aussi qu'il était venu à point nommé et qu'il était venu suite au décret divin, afin qu'il puisse ramener à bon port le bateau de l'islam qui était à la dérive. Il affirme que le signe prouvant l'authenticité d'un prophète et d'un réformateur est qu'il vient à point nommé et en accord aux besoins de l'époque. En s'adressant aux autres musulmans, il leur demande de jurer que l'heure n'était pas venue pour qu'il y ait des préparatifs au ciel. Or, ces musulmans savent très bien que la situation des musulmans exigeait l'avènement d'un réformateur. Ils en font mention dans leurs journaux, ils en font mention dans leurs discours. Tout cela prouve qu'on a besoin de quelqu'un pour s'occuper de la Oumma de l'islam. Mais ils annoncent dans le même souffle qu'il ne s'agit pas de Mirza Ghulam Ahmad Qadian. Il doit s'agir de quelqu'un d'autre. En tout cas, ils ne veulent pas croire en celui qui se dit être l'envoyé d'Allah. Au contraire, ils le rejettent carrément. Voilà comment agissent ces prétendus oulémas, et ils ne cessent de le faire partout, en particulier dans les pays musulmans. Or, nous constatons qu'en retour, Allah l'exalté souhaite transmettre son message. Il souhaite transmettre son message à le monde et il souhaite que ce message soit accepté. Son décret est en train d'agir à cet effet et des centaines de milliers de personnes, en dépit de cette hostilité, acceptent l'Ahmadiyya tous les ans et cela est la preuve qu'Allah l'exalté est en train de soutenir la Jamaat Ahmadiyya, est en train de soutenir le Messie promis alayhi salam. Nombre de personnes font part du récit de leur conversion à l'Ahmadiyya. Ces récits nous laissent bouche bée quant à la manière qu'Allah pousse ceux qui sont doués de nature pieuse à embrasser l'Ahmadiyya. Je présente ici-bas certains de ces récits. Le premier récit que je vais présenter nous vient de l'Algérie, où l'hostilité contre la Jamaat Ahmadiyya bat son plein, tout comme je l'ai déclaré. Le rapporteur de ce récit raconte ceci. Il dit, « Bien avant de connaître l'Ahmadiyya, j'ai fait le rêve suivant une nuit. J'ai vu que je me trouvais dans une file composée de nombreuses personnes dans une salle très vaste à la toiture élevée. Au début de la file se trouvaient deux individus et tous ceux qui étaient dans la file serraient hors de la main de la personne qui se trouvait à la droite avant de partir vers la porte de la salle. En somme, cette longue file de gens se trouvait là pour rencontrer tout spécialement un de ces deux individus. De loin, je me suis demandé la raison pour laquelle les gens saluaient une seule des deux personnes avec tant de passion. Pourquoi est-ce qu'ils ne saluaient pas ces deux personnes? Lorsque je suis arrivé tout près, j'ai constaté qu'une de ces deux personnes portait une barbe blanche et l'autre, qui était à sa droite, était de taille moyenne et était de teint basané. Sa barbe et ses cheveux étaient noirs. Quand c'était mon tour, j'ai envoyé ma main pour serrer celui qui avait la barbe blanche. Il m'a demandé de saluer celui qui portait la barbe noire et qui était de teint basané. Je l'ai fait avec beaucoup de passion. Et en même temps, j'ai prouvé pour cette personne une très grande affection. Il m'a souri. Son sourire était si envoûtant que je ne peux pas l'oublier jusqu'aujourd'hui. Quand j'ai connu l'Ahmadiyya, j'ai commencé à regarder la MTA. Durant ces jours, j'ai vu la photo du Messie premier l'Islam un jour. Et après quelque temps, on a diffusé le sermon du calife. Et l'image du calife est passée à l'écran. Quand j'ai vu ces deux personnes, je me suis souvenu de mon rêve. Le calife était celui qui portait la barbe blanche dans mon rêve et le Messie premier l'Islam, que tout le monde saluait et vers qui indiquait le calife, était celui qui avait la barbe noire. Par la suite, je suis entré en contact avec les Ahmadis grâce à Internet, je leur ai posé plusieurs questions et après avoir reçu mes réponses, j'ai fait la Bayra. Le récit de la personne suivante laisse supposer qu'Allah l'avait cerné afin de le pousser à prêter allégeance au Messie premier l'Islam. Peut-être qu'une de ses œuvres avait plu à Allah l'exalter. Il s'agit de M. Abdul Hadi de l'Égypte. Il relate « J'ai connu l'Ahmadiyya grâce à la MTA al-Arabiya ». En tout cas, l'émission qui passait à l'antenne était très intéressante. Cette émission m'avait plu, mais je n'arrivais pas à comprendre comment le fondateur de la communauté Ahmadiyya pouvait être un prophète et récipiendaire de révélations. Ces faits à propos du Messie premier l'Islam étaient pour moi douteux. J'ai tenté vainement d'appeler au cours de l'émission Al-Hiwal al-Mubashir, mais je n'ai jamais pu le faire. Je n'ai jamais pu prendre la parole à l'antenne. Je voulais tout simplement poser une seule question et j'attendais un oui ou un non comme réponse. Ma question était, est-ce que le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya était innocent comme les autres prophètes et est-ce qu'il était récipiendaire de révélations divines? Si les réponses étaient affirmatives, j'aurais enlevé tout de suite cette chaîne de ma liste. Car je croyais à l'époque que la révélation divine était terminée après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et celui qui disait recevoir des révélations divines est un menteur. Or, Allah l'exalté a fait en sorte que je n'ai jamais pu appeler lors de l'émission et conséquemment, je n'ai cessé de suivre les émissions de la MTA et petit à petit, j'ai compris toutes ces questions, dont celles concernant la Khatmun Nabuwa, tant et si bien qu'un jour, je n'avais pas d'autre choix que de prêter allégeance à l'imam de l'époque, le Messie promis et Mahdi promis. C'est ainsi que j'ai rempli le formulaire de la Bayra et je l'ai envoyé. Après ma conversion, j'ai voulu que les autres aussi reçoivent ce message et j'ai choisi à cet effet un de mes amis proches. J'espérais de tout cœur qu'il allait m'écouter. Quand je lui ai présenté le message de l'Ahmadiyya, eh bien contre toute attente, il était furieux et il a commencé à insulter le Messie premier l'Islam. J'étais contraint de le laisser, je suis retourné chez moi, le cœur meurtri, l'âme en peine. Quand j'ai allumé la télé comme à l'accoutumée, on était en train de diffuser ce verset suivant sur la MTA. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Et s'ils t'accusent de mentir, eh bien, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils étaient venus avec des signes manifestes et des livres de sagesse et un livre éclairant. Ce verset était pour moi un baume au cœur et j'ai compris que ce n'était pas là un fait du hasard. C'était un message que j'avais reçu de la part d'Allah, l'exalté, à savoir que tous les prophètes ont été rejetés et moqués. Il n'est point étonnant qu'on traite ainsi le Messie promis, alayhi salam. Or, en dépit de cela, les prophètes jouissent du soutien divin et leur triomphe dans le monde est une preuve grandiose de l'existence d'Allah, l'exalté. C'est là une preuve éclatante de la véridicité des prophètes divins. Ces pensées ont dissipé ma tristesse et j'ai remercié Dieu de m'avoir permis d'accepter l'imam de l'époque, le Messie promis, alayhi salam, et de ne pas faire partie de ses négateurs. Celui qui était de nature pieuse a été sauvé par Allah, l'exalté. L'autre qui était différent, eh bien, n'a pas pu profiter de la grâce divine. Non seulement qu'il était indifférent à ce message en raison de son infortune, eh bien, il a été coupable d'effronterie. Celui qui avait prêté allégeance a immédiatement été rassuré par Allah, l'exalté, et de surcroît, sa tristesse avait disparu. Allah a permis à une femme de se joindre à la communauté en raison de sa nature noble, et cela en dépit de la peur qu'il ressentait à l'égard des musulmans, peur qui avait pour raison les actes terroristes de certains musulmans. Elle avait aussi peur de nous. Or, Allah, quant à lui, lui a accordé la direction. C'est une femme nommée Hami Fadi, habitant dans un village situé tout près de la ville Bo, en Guinée, un pays d'Afrique. Elle raconte, un jour, un mualim de la Jamaat est venu lui prêcher le message de la Jamaat Ahmadiyya et l'a invité à venir assister à la Jalsa Salana qui était organisée durant ses jours. Le message m'a plu, a-t-elle dit, et je m'apprêtais à me rendre à la Jalsa et j'ai même fait le plein de la voiture. C'était une femme aisée qui vivait dans un village. Elle relate, en raison des attentats terroristes commis par certaines organisations islamiques, j'avais peur que la Jamaat Ahmadiyya ne soit de la même catégorie. C'est pour cette raison que j'ai abandonné l'idée de me rendre à la Jalsa étant donné que j'ignorais ce qui allait s'y passer. Mais j'ai prié au Allah fasse que les Ahmadis reviennent prêcher de notre village s'ils sont véridiques. Après quelque temps, relate-t-on, notre équipe de tablir est partie dans son village à l'improviste. Quand la femme nous a vus, elle avait des larmes aux yeux et elle a déclaré qu'Allah l'exalté acceptait ses prières. C'est ainsi que toute la famille a embrassé l'Ahmadiyya. Dieu est gracieux envers certaines personnes et les font grandir dans leur foi grâce à des avantages matériels et il leur permet d'accepter l'envoyé d'Allah. Or, ceci n'est pas une condition requise. D'aucuns disent qu'ils accepteront l'Ahmadiyya s'ils reçoivent tels avantages ou s'ils réussissent dans tel ou tel domaine. Le fait qu'on accepte l'Ahmadiyya n'est point une faveur accordée à Allah ou au Messie promis, l'Islam. Il faut écouter, il faut comprendre, il faut accepter le message d'Allah, l'exalté, si l'on veut jouir du véritable bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Lorsqu'Allah souhaite accorder des faveurs à d'aucuns, eh bien, il accepte leurs conditions et il leur montre cela. L'amir Saheb de la Gambie relate que Madame Santa est une habitante d'un village du district de Niamina et cette dame était une farouche opposante de la Jamaat Ahmadiyya. Elle était toujours furieuse lorsqu'on évoquait devant elle le nom de la Jamaat Ahmadiyya et elle critiquait violemment la Jamaat Ahmadiyya et elle disait que les Ahmadis sont des kafirs, des mécréants. Il disait que les Ahmadis iront en enfer, ainsi que tous ceux qui sont en contact avec eux. Cette dame avait des champs, mais elle perdait toutes ses récoltes depuis les deux dernières années. Parfois, c'était des insectes qui endommageaient ses récoltes, parfois, c'était d'autres animaux qui endommageaient ses récoltes. Elle n'arrivait pas à en comprendre les raisons. Une de nos sœurs, Ahmadi, lui a dit ceci. « Tu es en train de perdre tes récoltes depuis que tu es en train de critiquer la Jamaat Ahmadiyya. Cesse de t'opposer à la Jamaat Ahmadiyya, entre dans la Jamaat Ahmadiyya et Allah l'Exalté t'accordera sa grâce. » Elle a compris ce point et elle a dit qu'elle tentera l'expérience. Elle et 8 membres de sa famille sont entrés dans la Jamaat Ahmadiyya et ils ont vu pleuvoir sur eux d'immenses grâces divines après leur conversion à l'Ahmadiyya. Non seulement qu'elle avait une récolte abondante, mais elle a pu de nouveau contacter son jeune fils qui se trouvait en Italie et qui n'avait pas donné de nouvelles depuis plusieurs années. À présent, cette dame demande à tout le monde de se joindre à la Jamaat Ahmadiyya, car il s'y trouve le salut, dit-elle. Un de nos missionnaires du Bénin raconte « Une violente tempête a frappé la ville de Basila cette année-ci lors de la saison pluvieuse. Un des murs de notre centre s'est effondré suite à cette pluie. Il a continué à pleuvoir pendant la nuit et le deuxième mur était sur le point de s'effondrer. Le missionnaire déclare que j'étais inquiet des pertes que subissait la Jamaat et j'ai fait la prière suivante. D'ailleurs, seuls nos missionnaires peuvent avoir de telles idées pour leur prière. J'ai prié, dit-il, oh Allah, comble cette perte à travers des conversions et fasse progresser la Jamaat. Je n'avais pas terminé mes prières que le téléphone a sonné. C'était minuit et l'orage était violent. Lorsque j'ai décroché le téléphone, une personne qui s'appelait Mohamed a répondu. Il appelait depuis un village nommé Boucha et il m'a informé que les gens de son village souhaitaient faire la Baïra. Ce village se trouvait à 110 km de la mission où il se trouvait. Le missionnaire a dit « Je suis parti à leur rencontre ». Soit le lendemain ou bien quelque temps après, eh bien, 198 personnes ont fait la Baïra dans ce village et sont entrées dans la Jamaat. Et malgré toutes sortes d'oppositions, il y a une vive opposition là-bas, eh bien, malgré cette hostilité, ils sont fermes dans leur foi. Un missionnaire de l'Allemagne écrit ceci, qu'il était en contact avec une famille syrienne depuis un an environ. Cette famille avait également participé à la Jalsa Salana de l'Allemagne l'année dernière. Ils ont été impressionnés par l'atmosphère de la Jalsa, mais ils n'avaient pas fait la Baïra. Cette famille syrienne écrit ceci. En raison du fait que nous sommes passés par l'Italie avant de venir en Allemagne, notre avocat considérait notre dossier de demande d'asile comme étant faible et nous disait que nous allions probablement être renvoyés en Italie. Après la Jalsa, nous attendions à recevoir un courrier de la part du tribunal ou de la part du gouvernement, nous demandant de repartir en Italie. Mais lorsque nous sommes arrivés chez nous après la Jalsa, nous avons reçu une lettre du tribunal disant qu'ils étaient au courant que nous étions arrivés en Allemagne après avoir transité par l'Italie. Mais le juge avait aussi déclaré que, étant donné que nous sommes des Syriens, il n'était pas nécessaire de nous envoyer ailleurs. Le père de famille a écrit que c'était pour moi un miracle. J'ai tout de suite pensé que c'était le résultat des bénédictions de la Jalsa. Et j'ai dit à ma femme que Dieu l'exalté nous a montré ce signe en raison de notre participation à la Jalsa Salana. Ils étaient convaincus que c'était grâce aux bénédictions de la Jamaat qu'ils ont reçu ces faveurs et ils ont décidé de faire la Baïra. Ils sont entrés dans la Jamaat. Allah l'exalté guide les gens de façon étonnante. La transmission du message n'est pas très facile en Afrique. C'est une tâche très difficile. J'avais présenté quelques anecdotes à ce sujet, mais certaines personnes pensent que, étant donné qu'il y a des personnes illettrées pauvres là-bas, eh bien, elle accepte facilement l'Ahmadiyya. Mais c'est complètement faux. Les soi-disant savants, les soi-disant érudits ont maintenu ces personnes. Ils étaient emprisonnés dans des traditions et dans des innovations étranges dans l'intérêt de leur gagne-pain et pour préserver leur distinction. Et ceux qui suivent ces mollahs et ces ulémas, eh bien, ceux-là ne veulent pas s'en séparer. Et c'est à cause de ces personnes qu'il y a cette opposition contre la Jamaat. Ceci a été illustré par quelques anecdotes d'opposition en Afrique. En bref, il n'est pas facile d'accepter l'Ahmadiyya là-bas. Mais Allah, l'exalté, crée constamment des moyens pour guider les gens. Et il montre aussi à nos missionnaires comment transmettre le message. Un missionnaire de la Côte d'Ivoire présente ce récit. Un missionnaire local de la région de San Pedro a visité un village pour transmettre le message, suite à quoi l'imam et 15 personnes ont accepté l'Ahmadiyya. Par la suite, cet imam a participé à la Jalsa Salana nationale de la Côte d'Ivoire afin de connaître davantage les membres de la Jamaat. Il était ravi de participer à la Jalsa Salana et il a offert un terrain pour la construction d'une mosquée. Mais les gens de ce village suivaient un grand imam de la ville. La prière du vendredi n'était jamais offerte dans ce village, malgré le fait qu'il y avait là-bas un imam. La raison avancée était qu'il faudra au préalable inviter le grand imam de la ville, sacrifier une vache ou une chèvre et inviter ce grand imam pour un festin. Et c'est après cela qu'il sera possible d'accomplir la prière du vendredi, sinon cela est impossible. Voilà donc ces innovations farfelues qu'ils ont propagées là-bas. Et le grand imam, après avoir participé à différents festins dans différents endroits, visitait le village quand il trouvait du temps et quand c'était leur tour, afin de diriger la prière du vendredi. En attendant, il privait les gens d'un devoir fondamental de tout croyant, à savoir le fait d'accomplir la prière du vendredi. Dans un hadith, il est rapporté que le cœur de celui qui n'a pas offert la prière du vendredi trois fois de suite s'en tâche. En bref, c'était une charia établie par ces imams. Lorsqu'on a informé le petit imam de ce village que rien de tout cela n'est requis pour offrir la prière du vendredi, il est retourné dans son village pour expliquer aux gens qu'il est possible pour eux d'accomplir la prière du vendredi et qu'il n'y a aucun obstacle à cela. Il n'était pas nécessaire d'inviter le grand imam à un festin avant de pouvoir accomplir la prière du vendredi. Sur ce, les autres personnes du village qui n'avaient pas accepté l'Ahmadiyya ont exprimé leur opposition. Ils n'ont pas autorisé l'imam à diriger la prière du vendredi dans leur mosquée. L'imam a construit un abri modeste et a offert à la prière du vendredi avec quelques Ahmadis. En réponse à cela, les opposants ont détruit l'abri. L'imam continue, je suis parti voir le chef du village accompagné du missionnaire local et de quelques Ahmadis et nous avons expliqué au chef du village la situation. Le chef a statué que si les personnes de la mosquée ne nous laissent pas prier dans leur mosquée, eh bien nous pouvons prier ailleurs. Lorsque la prière sera offerte à deux endroits différents, eh bien les gens pourront choisir là où ils souhaitent prier. En bref, par la grâce d'Allah, dans ce village, grâce à l'Ahmadiyya, les prières du vendredi sont offertes dans ce village. Et malgré l'opposition, les membres de la Jamaat sont fermement cramponnés à leur foi et offrent la prière du vendredi. Allah guide de nombreuses personnes à travers les rêves. On observe ce phénomène partout dans le monde. Le missionnaire en chef de la région de Kananur, du Kerala, a relaté l'incident de la conversion d'un nouveau converti. L'intéressé était souvent inquiet avant la Baira. Quelqu'un lui a suggéré que le remède à ses inquiétudes se trouve dans le fait de réciter souvent le Daroud, d'envoyer des salutations souvent sur le Saint-Prophète Mohammed, ainsi donc il a suivi son conseil. Un jour, il a vu en rêve la tombe du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a aussi vu une tombe qui était vide. Une personne s'est présentée et lui a dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il va venir le rencontrer prochainement. Lorsqu'il a raconté ce rêve à un imam de l'Ahmadi, celui-ci lui a dit qu'il s'agissait d'un rêve très béni et qu'il allait atteindre un haut statut spirituel. Quelques jours après ce rêve, il a rencontré lors d'un voyage un Ahmadi et cet Ahmadi lui a conseillé de visiter la mosquée Nour de la Jamaat située à Kananour. Il s'est rendu à la mosquée de la Jamaat et il a participé à la prière du vendredi. Et il a appris au sujet de la Jamaat et il a commencé à lire les ouvrages de la Jamaat. Et il est entré dans la Jamaat après avoir fait la Bayra. Il a expliqué que le fait de rencontrer prochainement le saint prophète Mohammed paix soit sur lui signifiait qu'il allait accepter l'Ahmadiyya. Un missionnaire du Bénin écrit ceci. Notre Mualim Hamdi Jibril Saheb anime une émission d'établir sur une radio locale. Un jour, une femme a appelé lors de l'émission et a exprimé qu'elle était étonnée d'apprendre que le Messie promis est revenu et qu'elle n'était pas au courant. Elle a ajouté « Je suis musulmane et ma famille est chrétienne ». Et ils me font taire en me disant que les musulmans aussi disent qu'ils attendent le Messie pour les guider. La dame a dit, venez chez moi, dans mon village, pour prêcher votre message. Ainsi, dans ce village, après quelques sessions d'établir, 227 personnes ont fait la Bayra et ont accepté l'Ahmadiyya. Là où les Maulvis, les Mollahs sont influents, eh bien, ils essayent d'éloigner les gens de l'Ahmadiyya en les intimidant, en les menaçant. Mais Allah l'exalté en raison des actes des Mollahs a permis aux gens d'accepter l'Ahmadiyya. Il y a de nombreux récits pour illustrer cela, je vais vous en présenter un. Un missionnaire de la ville de Mporokosu, située dans la province nord de la Zambie, a écrit ceci. Il dit « La Jamaat Ahmadiyya a été établie en ces lieux il y a un an de cela. Les Mollahs ont organisé une réunion. Ce sont des musulmans de longue date et plusieurs personnes ont été conviées, dont un certain monsieur Mohamed Saïd, qui était auparavant en contact avec notre Jamaat, mais il n'avait pas encore accepté l'Ahmadiyya. Durant cette réunion, les Mollahs disaient qu'ils ne pouvaient voir les Qadianis progresser. Ils ont donc décidé qu'ils poursuivraient partout les Ahmadis pour les menacer, pour les intimider. Et s'ils ne rejettent pas l'Ahmadiyya, eh bien, ils seront prêts à les tuer s'il le faut. Ainsi donc, les Mollahs ont demandé à ce monsieur Saïd de mettre fin à tout contact avec les Ahmadis. Il savait très bien qu'il contactait les Ahmadis, qu'il était en contact avec eux. Ils lui ont menacé, disant que s'ils n'auront pas toutes ces relations avec les Ahmadis, eh bien, ils prendront les mesures nécessaires. En réponse, après cette réunion avec les Mollahs, Mohammed Saïd a rejoint la Jamaat Ahmadiyya avec toute sa famille. Il leur a dit « Vous m'avez menacé et moi j'ai rejoint la Jamaat ». Après cette réunion, 25 autres personnes ont accepté l'Ahmadiyya. Le fait qu'il était menacé a révélé la vérité à ses yeux, et le nombre d'Ahmadis a augmenté. C'est ce que nous voyons aussi en Algérie, tout comme je l'ai mentionné auparavant. Les gens commencent à connaître l'Ahmadiyya, et selon les Ahmadis de là-bas, un jour viendra où les gens rejoindront en masse la Jamaat Ahmadiyya, Inch'Allah. L'Amir Saheb de la Tanzanie relate un autre incident. La Jamaat est établie à Nyangamara depuis fort longtemps, mais il n'y avait qu'un ou deux foyers Ahmadi. Cette année-ci, c'est-à-dire en 2016, grâce aux efforts des membres locaux, des programmes réguliers de tablir ont été organisés lors desquels on a évoqué l'importance du califat. Et il y avait cet enthousiasme à voir le calife. Et on a demandé à un non-Ahmadi qui avait une parabole et la télévision de mettre la MTA. Ainsi donc, il leur a fait voir la MTA et les gens ont pu voir le calife à la télévision. Ainsi, on a trouvé ce nouveau moyen pour accomplir le tablir. Il ajoute, cette même année, c'est-à-dire en 2016, le mois d'après, une délégation est partie de nouveau pour accomplir le tablir. Pendant le programme, Amola a essayé de créer du désordre et nous pensions que nous n'aurions pas de réussite. Mais l'aide divine s'est manifestée de telle sorte qu'après la session de tablir et des questions et des réponses, les habitants de la région qui n'avaient pas encore fait la Bayra ont dit à ce mal-là, si les Ahmadis sont des mécréants, eh bien nous aussi nous sommes Ahmadis, quittez ce village. Les Ahmadis ne s'en iront pas. Ainsi, après cette opposition de la part du Mullah, les gens se sont tournés davantage vers la Jamaat. Et au total, 38 personnes ont eu l'opportunité d'accepter l'Ahmadiyya. Et parmi les nouveaux convertis, une personne a offert un terrain pour la construction d'une mosquée. Et un autre nouveau converti a dit, « Étant donné que ma maison est spacieuse et proche de celle des autres frères, en attendant la construction dans la mosquée, les prières en congrégation seront offertes chez moi. » Ainsi, tous les jours, les membres de la Jamaat s'y réunissent pour offrir les prières en congrégation. Il y a donc de nombreux récits de ce genre où l'on a essayé d'écarter les gens de l'Ahmadiyya en y faisant de l'opposition ou même en soudoyant les gens. Mais c'est là l'œuvre de Dieu, tout comme l'a expliqué le Messie promis à l'Islam. Il dit que de jour en jour, nous sommes en train de connaître du succès. Les gens viennent de certains endroits d'eux-mêmes après avoir connu la Jamaat. En observant tout cela, nous témoignons de l'accomplissement des paroles suivantes du Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam qui déclare « Gardez toujours à l'esprit » que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de toute action. Il déclare « Des brises fraîches commencent à souffler. Les œuvres divines se réalisent pas à pas. Ces œuvres vont s'accomplir doucement et sûrement. Le progrès est graduel et ne cessera pas. Inch'Allah. » Les musulmans, quant à eux, doivent prêter oreille aux paroles du Messie premier d'Islam au lieu de s'opposer à lui. Le Messie premier d'Islam s'est adressé à ces musulmans et il leur a dit. Il leur a dit, même si je ne disposais d'aucun argument en ma faveur, il incombait à tout musulman de chercher activement et tout affolé quant à la raison de l'absence du Messie. À savoir pourquoi le Messie n'est-il pas encore venu afin de briser la croix. Au lieu de chercher à s'opposer à lui, il fallait chercher où se trouvait ce Messie, car à cette époque, son besoin se faisait sentir. Il déclare, si les soi-disant ulémas se souciaient de l'intérêt et du bien-être de la race humaine, eh bien, ils n'agiraient jamais de la sorte. Ils n'allaient pas nous traiter comme ils le font à présent. Ils auraient dû réfléchir sur ce qu'ils ont gagné en édictant des fatwas contre nous. Lorsqu'Allah décrète qu'une chose va se produire, comment est-il possible qu'elle ne se produise pas? Le Messie promis d'Islam déclare, nos opposants sont en réalité à notre service, car ils propagent notre message d'une manière ou d'une autre, d'est en ouest. Les récits que je viens de vous présenter, ainsi que les déclarations des Ahmadis de l'Algérie et du Pakistan prouvent que, suite à cette opposition, la Jamaat est en train de se faire une plus grande renommée. Nous ne devons point nous soucier de l'opposition contre la Jamaat, que ce soit en Algérie ou au Pakistan ou dans un autre pays musulman. Notre message est en train de se transmettre davantage grâce à nos opposants et l'Ahmadiyya est de plus en plus connue. Les ulémas et les opposants doivent réfléchir sur les paroles suivantes du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam qui déclare « Sachez que si vous ne m'acceptez pas, eh bien jamais vous ne rencontrerez le promis. » Il ajoute « Je vous conseille de ne jamais abandonner la taqwa. Prêtez oreille à ces paroles avec crainte de Dieu. Méditez dessus en solitude et priez car Dieu est celui qui accepte les prières. Si vous priez avec de bonnes intentions, il exaucera vos supplications et vous guidera. Qu'Allah fasse que ces gens soient dignes d'être guidés par Allah l'Exalté, qu'ils ouvrent leur cœur. Après la prière, je dirigerai la prière funéraire de Haji Nuh Svend Hansen, un Ahmadi d'origine danoise. Il est décédé avant-hier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Il est né le 28 juin 1929 à Copenhague. Il était rattaché à l'église luthérienne. Il était très impressionné par un grand philosophe et un grand réformateur du Danemark, un certain monsieur Ludovic. Il faisait partie d'une grande famille d'agriculteurs. Le défunt a obtenu son master d'ingénierie chimique de l'Université technologique du Danemark en 1951. Ensuite, il est parti travailler en Malaisie. Il a accepté l'islam le 26 janvier 1956. Au départ, la raison de son acceptation de l'islam était en raison de son mariage avec une musulmane. Mais ensuite, il a lui-même acquis une connaissance très approfondie de l'islam et il a ensuite commencé à mettre en pratique les préceptes de l'islam de tout cœur. En 1964, il a eu l'opportunité d'accomplir le pèlerinage à la Mecque avec sa femme pour la toute première fois. Et lors du Hajj, il a prié en ces termes. Il a dit « Oh Allah, pardonne-moi mes manquements et mes faiblesses dans l'accomplissement de ce pèlerinage et accorde-moi une autre opportunité d'accomplir le Hajj lorsque je serai dans une meilleure condition spirituelle. » Par conséquent, Dieu a accepté sa prière, qu'il a eu l'occasion d'accepter l'Ahmadiyya, et par la suite, il a accompli un autre Hajj et plusieurs Umrah. Il a accepté la Jamaat Ahmadiyya en 1965. Chaudhry Zafar Khan Saab s'était rendu au Danemark en 1965. Et M. Hansen a eu l'opportunité de passer beaucoup de temps avec lui. À cette époque, il n'avait pas encore prêté allégeance, mais il a commencé à s'intéresser à l'Ahmadiyya. Il avait posé quelques questions à l'époque. En 1969, il s'est rendu au Pakistan. Il a logé chez Chaudhry Zafar Khan Saab. Il a aussi visité Rabwa. Il a eu l'occasion de rencontrer le troisième calife. Il avait déjà étudié la Jamaat Ahmadiyya de manière approfondie, mais il n'était pas encore satisfait totalement. Lors de sa rencontre avec le calife, il a également posé quelques questions. Et il a déclaré que c'est là qu'il a compris la vérité de l'Ahmadiyya. Par conséquent, dès son retour le 7 avril 1969, il a envoyé le formulaire de la Bayra au troisième calife et il est entré dans la Jamaat Ahmadiyya. De 1974 jusqu'en 1988, il a eu l'occasion de visiter Qadian et il a eu l'occasion de transmettre les salutations du saint prophète Mohammed Peace soit lui au Messie premier des salam en se tenant devant sa tombe. De 1974 à 1988, il a occupé le poste de secrétaire national des finances du Danemark et il a amélioré ce système. En 1985, le quatrième calife l'a choisi comme amir du Danemark. Avant cela, il avait été choisi en tant qu'amir adjoint le 27 avril 1983. Hazrat Chaudhry Zafar Khan Saab rapporte que la femme de Hansen Saab était une musulmane de Malaya. Ce couple n'était pas musulman juste par tradition, mais c'était un couple sincère, respectait le jeûne ainsi que la prière. Chaudhry Saab déclare que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi ancré dans les enseignements islamiques parmi les musulmans occidentaux. Le défunt a aussi travaillé sur la publication et la traduction du Saint-Coran en 1989. L'édition révisée de la traduction du Saint-Coran a été publiée en format numérique et le défunt a rendu d'amples services pour ce travail. Et il avait aussi aidé Madsen Saheb à cet égard. Depuis 1986, et tant qu'il était en bonne santé, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans de cela, il venait tous les ans à la Jalsa Salana du Royaume-Uni et il a eu l'occasion d'aider le quatrième calife lors de la Shura internationale. Le défunt était aussi l'éditeur de la revue Active Islam, une revue qui était publiée dans les pays scandinaves. En 1981, il a été choisi comme le premier Zaim Allah du Danemark et il a occupé ce poste jusqu'en 1986. L'épouse de Hansen Saheb n'était pas Ahmadi. Elle était une farouche opposante de la Jamaat. Malgré cela, il se comportait avec bonté envers elle et cela n'a pas affecté ses services à la Jamaat. Il était très régulier dans ses cotisations et participait davantage à les sacrifices financiers. Il avait fait des économies et ces économies, il les plaçait dans un compte pour contribuer pour la cause de Dieu. Lorsqu'il s'apprêtait à partir à la retraite, il a offert sa voiture à la Jamaat. Le quatrième calife, qu'Allah soit content de lui, avait écrit une lettre dans laquelle il avait mentionné les sacrifices financiers du défunt. Il a dit « Ces sacrifices financiers sont exemplaires. Depuis le tout début, il était très sincère et il était un exemple à suivre dans le domaine des sacrifices financiers. Jamais on n'a pas eu besoin de lui faire des rappels. Qu'Allah fasse que les autres membres de la Jamaat soient comme lui. Ce faisant, le travail du secrétaire des finances se limitera à tenir les comptes et il n'aura pas à faire des rappels. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. Je vais diriger sa prière funéraire après la prière qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il accorde l'occasion à sa femme ainsi qu'à ses enfants d'accepter l'Ahmadiyya et d'agir en fonction de ses enseignements.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ